Salut Jean-Philippe.
Allô Hugo.
J'espère que ça va bien.
Ça va, un petit rhume, mais ça va.
Bon, ben écoute, il n'y a rien qui t'empêchera, je pense, de venir avec moi aujourd'hui parler de la saison 3 de Mandalorian. Donc, évidemment, re-bienvenue à Rembobinage.
Merci. C'est toujours un plaisir de venir parler de soit la guerre des étoiles ou des super-héros.
On a notre thématique, effectivement. Ouais. Mais donc, comme je disais, donc on se reparle parce que la saison 3 de la télésérie de Mandalorian sur Disney Plus est terminée, je pense, depuis maintenant une semaine et demie, deux semaines bientôt. Et grosse saison. On pense que ça va être un travail d'équilibriste de pas trop donner de spoilers.
On n'aura pas le choix d'en donner, là.
non, effectivement. On va en donner un peu, mais effectivement, bon. On va essayer de pas trop, quand même, pas tout dire. Mais avant qu'on se lance vraiment dans le vif du sujet, tout en, comme je disais, essayer de garder un peu le suspense ou la surprise. Si t'étais un méchant, là, ouais. T'avais une base cachée dans une planète, est-ce que tu mettrais quelque chose de vraiment important, genre sur le chemin entre, genre le stationnement puis ton bureau? Est-ce que tu ferais ça?
Genre, mettons, qui est essentiel à mon plan de domination mondiale.
Voilà, ou galactique, là, ou dans galactique. Ce cas-là.
Ouais, non, j'essaierais de trouver un meilleur spot. Puis probablement pas non plus, tu sais, mettre tous ses œufs dans le même panier, là.
Ouais, voilà.
Il y a quelqu'un qui a pas compris cet adage-là, quelque part.
Mais bon, écoute, ça fait partie peut-être du charme de la série ou de Star Wars en général. Est-ce que, écoute, je vais peut-être essayer de résumer la saison 3, sans encore une fois aller trop loin dans les détails, mais parce que là, saison 3, on a un autre chapitre finalement. Là, bon, évidemment, c'est une autre saison, là, mais c'est un autre chapitre par rapport à ce qu'on avait vu dans saison 1 et 2. Petit résumé rapide, là, saison 1 et 2, c'était Mandalorian, donc Din Djarin, personnage joué par Pedro Pascal, qui trouve d'abord Grogu, qu'au début tout le monde appelait Baby Yoda, qui, bon, finalement devient un peu un père adoptif ou père de remplacement. Là. Je pense que quand on parlait de Last of Us, on disait que c'était l'année où Pedro Pascal joue des papas de remplacement, et comme de fait, c'est tout à fait ça. Donc, saison 1 et 2, c'est ce qui se passe à la fin de la saison 2. Ben écoutez, divulgateur, mais bon, c'est la fin de la saison 2, remet Grogu part avec Luke Skywalker pour devenir un Jedi, pour poursuivre sa formation. Et il est arrivé quelque chose qui s'appelle The Book of Boba Fett.
C'est vrai, hein?
Et The Book of Boba Fett, c'est un peu particulier. En tout cas, moi, j'en avais fait une critique écrite sur Pieuvre. C'est un peu particulier. On en avait parlé, toi et moi, évidemment. Mm-hmm. On est des grands fans de tout ce qui est Star Wars. Ben, sans dire qu'on aime ça, mais je veux dire, on va l'écouter pareil. Là,
c'est un peu Mandalorian saison 2.5. Genre.
Voilà, exactement. Et on avait eu, je pense, deux épisodes où Boba Fett qui n'était pas là du tout.
Ouais.
C'était un peu particulier.
Des caméos dans ta propre série.
Voilà. Et donc, dans ces deux épisodes-là, ben, avec des épisodes qui avaient seulement Mando, donc de Pedro Pascal, on nous a expliqué plein d'affaires importantes dans l'univers de Mandalorian. Et là, quand ils ont fait saison 3 de Mandalorian, je pense qu'ils se sont dit « Oups, il faut qu'on explique un peu si les gens ce qui s'est passé, si les gens n'ont pas vu Boba Fett, notamment le fait que Grogu n'est plus avec Luke Skywalker. » Parce que là, j'imagine qu'on avait les premières bandes annonces de Mando saison 3, et là, les gens voyaient Baby Yoda ou Grogu qui était de retour avec le Mandalorian.
Est-ce qu'il explique tant que ça? Parce que pour de vrai, moi, il me semble que dans la saison 3 de Mandalorian, pas tant saisi qu'il y avait ce travail-là de si vous n'avez pas vu le Book of Boba Fett, voici ce qui s'est passé d'important.
Ben, j'ai l'impression que dans l'épisode 1 et 2, il y a quand même pas mal d'explications de genre rétro-pédalage un peu, de on essaie d'expliquer sans trop expliquer, puis on voici le minimum dont vous avez besoin pour comprendre.
C'était un peu laborieux au début par rapport à ça. Là.
Oui, effectivement. Ben, c'est une saison qui est très, très, très chargée, je pense, en termes de développement. On nous prépare déjà l'arrivée de la prochaine série, qui est Ahsoka, qui va arriver cet été. c'est un peu, tu sais, moi j'ai déjà beaucoup chicané sur Marvel et tout ce qui s'entrecroise et tout ça, là. Puis on est un petit peu en train de faire ça avec Star Wars, je pense.
Ouais, bon, on a eu la confirmation avec, à mon avis, le film qui a été confié à Dave Filoni, là, dans les dernières semaines, mois, peut-être, là.
Ouais, dernière semaine, ouais.
Donc, Dave Filoni, qui est le co-créateur de Mandalorian, qui est un peu l'espèce de successeur de George Lucas, là, en termes de création de contenu Star Wars, qui va donc avoir un film qui se veut être le point culminant de ce qu'il appelle le Mandoverse, donc l'univers qui tourne autour de Mandalorian. Ça inclut la série de Mandalorian, évidemment. Est-ce que ça va inclure The Book of Boba Fett? C'est pas clair. Et il y a toute cette histoire de, c'est ça, la série d'Ashoka. Il y a également, ben là, ça englobe aussi un peu la série Rebels. Mm-hmm. Puis là, on sait pas trop s'il y a toujours une série dans les cartons sur les Rangers de la Nouvelle République. Là. Je sais pas trop si ça a tombé ça dans toute la multitude de projets Star Wars qui sont nés et qui sont morts au fil des années. Là. Mais donc on sait que ça va vraiment faire comme Marvel, là, puis avoir une espèce de endgame à la fin, là, que tout le monde se rencontre, puis il y a un gros party. Là.
Mais en fait, c'est un peu particulier parce que cette fameuse confrontation ultime, on n'a pas le choix. Les épisodes 7, 8, 9 qui sont là, font comme « Allô, on n'est pas bon, mais on existe ». Donc, t'as pas le choix de dire « On peut pas contourner ça non plus ».
Non, c'est clair, là, mais pour revenir à Mandalorian, oui. Tu disais c'est chargé, puis effectivement, on essaie de faire beaucoup de choses en même temps, là, notamment le rétro-pédalage par rapport à The Book of Boba Fett. Il y a ce travail-là également qui est fait de mettre la table pour les prochains méchants, point d'interrogation, là.
Oui.
Puis, ben, bon, je pense qu'on peut tout aller dans les divulgateurs parce que je présume que les gens qui nous écoutent l'ont écouté, là. Mais il y a toute cette espèce de conseil impérial, là, qui est dévoilé, dont le personnage joué par Giancarlo Esposito, le Moff Gideon, fait partie, qui est dévoilé. Donc, on a tout ce travail-là aussi de mettre les bases de cet empire qui est caché, qui est comme... qui fait semblant d'être en ruine, mais qui, derrière les coulisses, s'organise entre eux. Donc, il y a beaucoup de choses. Là. Puis, il y a toute l'histoire, évidemment, principale, là, qui est de redonner aux Mandaloriens leur planète natale, là, qui se fait en même temps. Donc, c'est vrai que c'était excessivement chargé, mais moi, je trouvais que c'était la saison de la rédemption pour The Mandalorian. Moi, à mon avis, là, j'ai quand même bien aimé, malgré ce gros bagage-là.
Ben, tu m'avais déjà mentionné la question de la rédemption quand on discutait, toi et moi, avant les quelques jours maintenant, quand la finale est arrivée, justement, de la saison 3. Et je comprends un peu ce que tu veux dire, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu veux dire exactement par rédemption?
Ben, la saison 1, j'avais beaucoup aimé, là, puis je pense que c'était unanime, là, tout le monde avait vraiment apprécié la saison 1, ça relançait Star Wars après il faudrait que je regarde mes dates pour être sûr, là, mais après comme des films un peu décevants, là, ouais. la nouvelle trilogie avait déçu, puis on avait cette série-là qui sortait un peu de nulle part avec du matériel original. Donc la saison 1, moi j'avais vraiment aimé. La saison 2, pour moi, c'était comme un gros aparté, là. Ça lançait beaucoup d'autres projets parallèles, là. Justement, on en a parlé, là, Ahsoka qui arrivait, qu'on savait pas trop c'était qui si on n'avait pas écouté d'autres séries. Mm-hmm. Il y avait Grogu, justement, qui s'en allait, Boba Fett qui arrivait, donc on a comme voulu tirer dans plein de places différentes, puis moi, à mon avis, ça donnait vraiment un espèce de rythme à la Donjon Dragon, là. T'arrivais, t'avais une mission, tu l'accomplissais, t'avais une autre mission, tu l'accomplissais. Ouais. Chaque épisode était comme une mission différente, puis ça cassait un peu le rythme à chaque fois. Puis la saison 3, on dirait que après justement ce long aparté qui est The Book of Boba Fett, puis qui mène un peu nulle part, là, on revient vraiment à... Mais tu sais, on revient à ce qui a fait le succès de Mandalorian. Là. Vraiment une histoire originale,
ouais.
Un personnage... C'est Mandalorian, là, le personnage principal. Là. Il n'y en a pas 15 000 autres. On raconte l'histoire des Mandalorians, cette espèce de civilisation construite autour du combat, puis très, très inspirée par Sparte. Fait qu'on se concentre vraiment là-dessus. on capitalise sur ce qui fait la force de cette série-là. Puis je pense que ça fonctionne pour la saison 3.
Oui, ben je pense aussi que ça fonctionne très bien pour la saison 3 parce que on a vraiment, c'est ça, comme tu disais, la quête principale, c'est ça. T'sais, oui, on a des petites affaires du genre, faut que Mando aille chercher des pièces de robot quelque part, puis là, soudainement, ah, tiens, c'est Jack Black. Mais autrement, tu sais, comme tu dis, on n'est pas éparpillé. Autant j'avais aimé certains épisodes de la saison 2, comme celui avec Bill Burr. Je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment un point de vue plus impérial, puis bon, de voir que, tu sais, il y a de la, même là-dedans, il y a de la dissension, puis des gens qui ont de la rancœur, puis c'est comme, OK, on a fait des atrocités vraiment horribles. Donc, éventuellement, le karma nous revient. Mais donc, c'est ça, saison 3, c'est, OK, tu sais, on avait eu la fameuse scène, je sais même plus si c'était dans Book of Boba Fett, je pense que oui. Ou en tout cas, on nous montre la destruction de Mandalore, puis c'est un gros, gros clin d'œil à Terminator. Et c'était super bien fait. Et là, on revient, tu sais, on dit, OK, il faut que, pour la petite histoire, Din Djarin, en tout cas, il est membre d'un ordre plus intégriste. On épargne les détails, mais en tout cas, un ordre plus intégriste des Mandaloriens où, entre autres, t'enlèves jamais ton casque. Et là, lui, il l'a enlevé plusieurs fois. Bon, au cours de ses aventures, il a pas. Certaines fois, il était obligé. D'autres fois, c'était juste bon parce que pour rassurer Grogu, tout ça. Et là, il se fait dire, ben, t'es plus un vrai Mandalorien parce que t'as enlevé ton casque. Et là, faut qu'il retourne sur Mandalore pour se purifier. Il y a tout un côté religieux là-dedans.
Ouais, mais c'est ça, c'est intéressant là. Puis ça développe beaucoup d'historique puis de contexte culturel de cette civilisation-là. Puis moi, j'ai vraiment aimé le travail qui a été fait dans cette saison-là pour bâtir ce contexte-là. Puis ça se fait pas... c'est pas grossier, là. C'est pas genre... tiens, voici en pleine face. Oui. Ça sert à l'histoire puis c'est amené assez délicatement. Fait que c'est... Moi, je trouve que ce travail-là a vraiment bien été fait...
Oui, absolument. Puis je voyais passer un commentaire intéressant qui disait tout ça, tout l'univers des Mandaloriens, ça a été développé entre autres parce que sur le costume de Boba Fett dans la série, dans les films originaux, il y a une espèce de squelette de bibitte.
Ouais.
Et il n'y avait aucune explication à l'époque. Puis tu vois, je suis en train de réécouter Retour du Jedi pour le prochain épisode en primaire de Rembobinage sur le Patreon. Et la fameuse scène dans la barge de Jabba the Hutt, sur Tatooine, Boba Fett est complètement incompétent. Là, t'sais, on a vraiment développé cette espèce de mythologie du Mandalorien à partir d'un bonhomme qui n'était pas super efficace.
Il y a une série complète de trois saisons, quatre si on inclut justement The Book of Boba Fett.
Ouais.
Il y a tout un travail scénaristique puis des millions des centaines de millions de dollars qui sont faits sur un personnage qui a je sais pas combien de secondes de temps d'écran dans les premiers films. Moi, ça me fascine. Il y a vraiment eu un amour pour ce personnage-là que au final il sert un peu l'intrigue, mais tu sais, pas tant que ça. Là.
Ben, je pense que paradoxalement, c'est intéressant parce que tu sais, les Skywalker, on a entendu parler pendant 9 films. Puis on a fait le tour pas mal. En tout cas, selon moi, là. Et là, on avait un personnage, comme tu dis, qui en a vu quelques minutes, peut-être tout au plus, qui avait été aussi dans le Holiday Special, mais ça existe, faut pas en parler. mais donc, il était là dans l'épisode 5, quelques secondes. L'épisode 6, il a l'air menaçant un peu. L'épisode 6, supposément, il meurt. Puis là, on apprend évidemment qu'il est pas mort. Mais... ça nous permet d'avoir cette espèce de page vierge, comme tu dis, sur laquelle bâtir quelque chose, puis d'expliquer finalement comment ça fonctionne après la chute de l'Empire, puis comment... Parce que c'est aussi ça, je pense, l'histoire du masque. Si constamment, t'avais Pedro Pascal, qu'on voyait son visage, je pense que ça enlèverait un certain détachement qu'on a par rapport au personnage. Puis de dire, ah, oh, ben, regarde, tu sais, oui, c'est Pedro Pascal, puis oui, il y a une voix spécifique, mais tu sais, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, avec un costume ou quelque chose.
Mm.
Donc, je pense qu'on peut plus se placer au cœur de ça, puis dire, nous, on vit ces aventures-là, puis nous, on vit dans ce monde-là qui est comme en deux, deux grandes puissances, deux gouvernements, puis c'est un peu instable, puis il y a des affaires qui se passent, puis c'est sinistre un peu, puis bon.
Mais je pense que cette série-là aussi, ce que ça a démontré, puis c'est la richesse de l'univers Star Wars, que justement, t'as pas besoin de te coller à Skywalker, puis à la trame narrative principale, mettons, là, des six, maintenant, neuf films au total, là.
Plus Rogue One, plus Solo, mais en tout cas...
Sort un peu de ce cadre-là, ouais. mais tu sais, t'es pas obligé de te coller sur cette trame narrative-là pour quand même faire quelque chose de super intéressant. T'sais, l'univers en soi, il est assez riche pour être capable de sortir puis de trouver des histoires originales qui vont quand même avoir un bon impact puis qui vont être intéressants scénaristiquement parlant. Là.
Si on vient justement à cette saison 3 de Mandalorian, qui est sortie après Andor, dont on a parlé évidemment déjà au podcast, qu'on avait adoré, qui était une structure belle phrase, Prévost, qui était une structure beaucoup plus, voilà, politique, espionnage, intrigue, vraiment, t'sais, grands enjeux. Puis là, on arrive avec Mandalorian qui était au début surtout, ça s'est amélioré, je pense, par la suite, mais au début, c'était encore un peu, tu sais, l'aventure un peu de la semaine où c'était ça partit assez lentement et le scénario n'était pas aussi bien, aussi riche. Est-ce que toi, ça t'a refroidi un peu de retomber un peu dans cette structure-là qui était plus simple?
Je pense que c'est des c'est ça que j'aime. Tu sais, ça revient un peu à mon propos d'avant, là. Tu sais, c'est... Je pense que ça se compare mal.
OK.
Puis, tu sais, justement, le Andor, ça joue vraiment un genre de thriller politique, espionnage, comme tu as dit, là. Ça reste un univers en soi qui se tient. Puis Mandalorian, moi, je le vois plus comme un genre de, tu sais, aventure Indiana Jones. Puis, on s'entend, là, les intrigues dans Indiana Jones, c'est pas très élaboré non plus, là.
Non.
Mais tu sais, c'est un peu... tu sais, ça fait très... moi, ça me donne vraiment une vibe de dessin animé du dimanche, là. Fait que... Puis ça se comprend, là, je veux dire, Dave Filoni fait son pain et son beurre des dessins animés du dimanche, là. Fait que ça transparaît dans ce qu'il crée pour Star Wars, mais... Puis c'est correct, là, tu sais, c'est ça aussi Star Wars, au final, là, tu sais, c'est des aventures pas très compliqué, le bien, le mal, puis on sauve la galaxie. Fait que comme moi, ça me choque pas plus qu'il faut, parce que je pense que c'est des genres différents qui plaisent à des publics différents. Puis justement, ça démontre qu'avec Star Wars, tu peux faire un peu n'importe quoi. T'sais, moi, je vois beaucoup de gens qui depuis longtemps qui demandent à ce qu'il y ait un projet X avec le genre de l'horreur, tu sais, dans Star Wars. Puis il y aurait le matériel pour le faire. Il y a des gens qui demandent un genre de... il y avait eu le projet, là, de Rogue Squadron, là, l'espèce d'escadron de pilotage, là, rebelle. Mais il y aurait eu de quoi à faire un peu à la Top Gun, là, avec des vaisseaux spatiaux et tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment des registres différents qui se comparent difficilement. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose, puis c'est pas aussi complexe, mais je pense pas que ça se veuille, tu sais, que ça soit incomparable.
Ouais. Ben, je t'avoue, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça me brille quand même un ou deux épisodes, peut-être même trois, pour dire, OK, tu sais, c'est pas la même chose, comme tu dis, c'est un registre différent, puis c'est effectivement, puis à la fin, je veux dire, les deux ou trois derniers épisodes, il y a des... C'est bon, on peut le dire, là, il y a une bataille avec des gens en jetpack. C'est pas quelque chose de... Tu sais, tu t'attends pas à ça nécessairement dans Star Wars. En tout cas, c'est super bien fait, puis c'est même plus réaliste que... Parce qu'il y avait des affaires qui n'avaient pas d'allure dans les épisodes 1, 2, 3, surtout dans le troisième. Mais tu voyais que c'était animé par ordinateur, puis c'est comme, OK, c'est correct, ils ont mis de l'argent, puis du budget, mais là, ça a l'air plus vrai. Puis tu dis, OK, tu sais, il y a vraiment de l'action, puis... Au lieu d'avoir... Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant même dans Mandalorian, c'est que oui, ça coûtait cher, clairement, là, mais encore une fois, pour revenir aux épisodes 1, 2, 3, surtout le troisième, encore une fois, les énormes batailles, c'est sûr que je vais essayer de structurer ça comme du monde.
Attends, parce mais que épisode 1, 2, 3, ça... épisode 1, 2, 3, tu veux dire les films, pas les épisodes 1, 2, 3 de la saison.
pas la saison. Je parle des films 1, 2, 3. Il y avait des grandes batailles de vaisseaux spatiaux. Oh, ça, surtout ouais. Dans le troisième, ça se tirait dessus, j'explosais. Mais c'était tellement excessif. Il y en avait tellement partout que... tu sais, je veux dire, la scène d'ouverture dans l'épisode, dans La Revanche des Sith, c'est à peu près 10 minutes de piou-piou-piou, ça explose, puis là, t'as pas le temps de voir les choses passer.
Je vais être obligé d'être en désaccord avec toi parce que cette scène-là, elle a une place spéciale dans mon cœur.
Mais je l'aime beaucoup, cette scène-là. Je te dis juste, dans Mandalorian, on a quelque chose qui est moins grand.
Ouais.
Mais on réussit à donner l'impression que c'est encore plus important. Peut-être parce qu'on s'intéresse plus à ce petit groupe de Mandaloriens-là que à l'ensemble de l'armée de la République ou quelque chose de même. Donc, je trouve que c'est à la fois plus vaste et paradoxalement. Là,
mais très intime en même temps.
Mais très, 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 comme tu dis, très intime, puis donc d'autant plus important en termes d'enjeu que... je ne vais pas tomber dans l'ultra spécifique, mais le plus gros vaisseau qu'on voit dans Mandalorian pour l'instant, tu sais, c'est pas le super destroyer interstellaire de l'Empereur du Retour du Jedi, ou c'est pas...
L'Étoile de la Mort 4.
C'est pas l'Étoile de la Mort qui fait 200 km de diable. Non, c'est un petit techniquement, c'est ce qui est un croiseur léger dans Star Wars. Mais ça donne l'impression quand même que c'est la grosse affaire, puis c'est la grosse flotte. Puis... Donc, il y a ce côté-là... c'est très, très concret, même si c'est effectivement animé par ordinateur, mais je trouve que ça donne l'impression qu'il y a vraiment un vaisseau en orbite, ou en tout cas au-dessus du sol, et que c'est comme, OK, là, c'est important, il faut viser telle tourelle, tel truc, plutôt que juste dire, on tire dessus, puis éventuellement, ça va exploser.
Ouais, non, non, c'est sûr que c'était mieux, c'était plus réaliste à ce niveau-là, là, mais moi, il reste que ça va... Probablement que le temps va me donner tort avec cette espèce de projet de convergence-là, mais j'ai encore de la difficulté. Mais je le vois que ça s'en vient et j'ai très hâte que ça s'en vienne, mais à mon avis, l'essence même de Star Wars, le nom le dit, c'est la guerre des étoiles. Il faut qu'il y ait une espèce de gros conflit. Là, on comprend qu'on est dans une espèce de contexte de guerre froide, là, disons. Là. Il y a deux clans, mais ils savent pas trop, puis... ils travaillent chacun dans leur coin, mais j'ai hâte que cette espèce de qu'on change de palier.
Oh ouais.
Puis qu'on aille dans un contexte beaucoup plus large, parce que c'est ça, à mon avis, l'essence de Star Wars aussi. Là.
Oui, ben je suis entièrement d'accord, et je trouve que je te dirais mes deux points négatifs vraiment de la saison, tu sais, la question du premier épisode avec le scénario dont on rattrape un peu Boba Fett, là, ça me dérange pas. Ce qui m'a un petit peu agacé, c'est vraiment en tant que fan fini, c'est que, d'abord, j'ai compris un peu le détour quand on a quelques épisodes sur Coruscant avec un personnage qu'on avait dans les saisons précédentes, mais j'ai l'impression qu'on nous a pas offert le résultat final de ce détour-là.
Ouais, ben pour mettre en contexte les gens, c'est le scientifique qu'on voit dans la saison 1 qui essaie de faire des expériences sur Grogu, bébé Yoda. Finalement, lui s'est fait capturer par la Nouvelle République, participe à une espèce de programme de réinsertion sociale pour les ex-impériaux. Puis tout ça pour dire que finalement, il se fait tuer par une espèce d'agent double qui est impérial, mais c'est ça, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on comprend la gravité de la chose, il se fait tuer et tout ça, mais on comprend pas pourquoi est-ce que c'est important qu'il meure.
T'sais. Oui, voilà. Donc c'est ça, OK, il se passe ça, puis bon, c'est bien tourné, c'est bien présenté, puis on sent que, comme tu disais, il prépare le terrain pour quelque chose, puis c'est vraiment la façon Marvel de faire, ça m'agace un petit peu.
On est triste qu'il meure, parce que tout l'épisode est bien fait, puis on s'attache au personnage, puis quand il meurt, on est comme un fuck, il est mort. Mais on comprend pas le point scénaristique de le tuer.
Et l'autre chose qui m'agace un peu, puis encore une fois, c'est qu'ils mettent le terrain pour Ahsoka et tout ça, c'est qu'on nous parle de le grand amiral Thrawn, dont on nous a déjà parlé dans cette série, au podcast. On nous parle de Thrawn, on a l'impression qu'on nous présente son capitaine. Puis pour ceux qui ont lu les livres de Timothy Zahn, comme moi, quand il était jeune, c'est comme, OK, on veut qu'il ramène Thrawn, il était là dans Rebelle. Donc, il était-tu là dans Clone Noir? Je me rappelle pas.
Non, il était pas là. Je pense qu'il était pas là.
Mais bref, il est là dans Rebelle. Excellent personnage. Puis là, on sait que c'est Mads Mikkelsen qui va le jouer. Tu sais, on a vu des photos de production, tout ça. C'est comme, OK, il s'en vient, il est là. Puis finalement, moi, je m'attendais à ce que à la fin de la saison, c'est comme, allô, je suis de retour. Tu sais, juste comme le voir de dos, quelque chose. T'sais, j'aurais voulu comme un cliffhanger de ce genre-là.
Mais c'est qu'on on saisit pas. Puis c'est un peu le problème de Marvel aussi avec certains de ses vilains, là. C'est que, tu sais, faut que rapidement, parce que tu le vois pas avant, faut rapidement que tu comprennes que ce gars-là, il est plus fort ou il est plus méchant que les autres méchants que t'as vus avant, tu sais.
Ouais.
Puis, s'il arrive juste, ça me surprendrait, là, mais s'il arrive juste au fameux film, ça, c'est si on se rend au film puis qu'il est pas dans les limbes de Lucasfilm dans une couple d'années, il me semble que c'est trop rapide pour, tu sais, placer le personnage dans la hiérarchie de toutes les autres vilain de Star Wars.
Ben, moi, j'ai l'impression qu'il va être là dans ce cas. Il n'y a pas le choix, là. On nous parlait...
Ben, il est dans la bande-annonce, là. Fait qu'on
effectivement. Pas... Donc, puis même dans l'épisode de la saison 2 de Mando, quand on rencontre Ahsoka, on nous montre... Elle explique elle-même qu'elle est à la recherche de Thrawn. Puis là, elle dit, OK, on s'en va vers ça, puis on s'en va vers... Tu sais, bon... retour un peu à la série Rebels avec l'autre personnage d'Ezra Bridger et tout ça. Donc... En tout cas, bref, pour les gens qui n'ont pas vu ça, c'est peut-être super flou et compliqué pour rien. Ça pour dire qu'il y a un grand méchant qui s'en, un autre grand méchant qui s'en vient. Ça sera plus un méchant impérial qui vend du poulet frit. Ça va être un autre méchant qui a la peau bleue, les yeux rouges et qui va être vraiment, vraiment, vraiment un bon tacticien puis un bon stratège.
J'adore l'histoire de l'art.
Ben, c'est un peu le Tywin Lannister de Star Wars. Si je peux faire une comparaison comme ça. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, c'est l'espèce d'intellectuel de service. Puis même, là, on divague, là, puis on fait un gros aparté, là, mais c'est pas clair non plus à quel point il va être un vrai méchant ou s'il y a pas autre chose qui se trame, qui serait peut-être un plus gris que complètement pure evil, là, pour utiliser un bon terme français.
Je pense qu'il a toujours été un réaliste. Puis il sait, par exemple, t'sais, OK, je, l'ennemi est supérieur en nombre, je peux pas gagner, donc je m'en vais plutôt que de me battre à la mort puis de me sacrifier. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, mais comme je te dis, c'était un peu ma déception de dire, t'sais, j'aurais voulu qu'il soit dans au moins à la fin de la saison 3 de Mando, parce que là, bon, on va attendre la saison 4, clairement. Ils vont voir Ahsoka saison 1 entre les deux. En tout cas, ça commence à pour les gens qui sont pas, par exemple, abonnés à Disney+, ça commence à faire beaucoup de choses à suivre. Et il faut vraiment, c'est ça, c'est un peu l'avantage et l'inconvénient, on en a déjà parlé, je suis certain. L'avantage, c'est qu'on n'a jamais eu autant de bons stocks Star Wars, je pense.
On n'a jamais eu autant de mauvais stocks Star Wars aussi.
Oui, mais je veux dire, c'est surtout que, tu sais, je pense quand même que le bon, tu sais, il y a comme, quand même plus de bons que de mauvais, mais... Autant on a du matériel, puis on a des aventures, puis des histoires, autant ça commence à faire de la job à suivre. Puis tu sais, c'est ça, effectivement, je disais, moi, j'ai lu les livres de Timothy Zahn quand j'étais jeune. Si t'as pas lu les livres, puis t'as pas vu Rebels, c'est qui Thrawn? Y a pas, pourquoi tout le monde est excité qu'ils reviennent? Pourquoi est-ce que... tu sais, c'est comme si je te disais, dans la Mando saison 3, le robot R5, qu'on a inventé une super grosse histoire en disant qu'il a aidé l'Alliance Rebelle, tout ça. R5, c'est le robot qui était là dans l'épisode 4 qui explose avant que oncle Owen, l'oncle de Luke, achète R2-D2 puis C-3PO. Aucune autre référence, jamais.
Ah ouais.
Donc, il y a toutes ces affaires-là de si vous n'êtes pas fan fini, vous pouvez quand même suivre l'histoire, mais il vous manque un petit quelque chose. Puis c'est, tu sais, moi, je dis, je suis un fan fini, toi aussi, là, clairement, mais je trouve ça plate pour les gens qui ont pas, tu sais,
le bagage pour suivi ça ou ça.
Ouais, c'est ça.
Mais, ouais, je suis d'accord, puis moi, mon autre point, c'est vraiment, tu sais, historiquement, Star Wars, c'était trois films, tu sais, c'était une série de films, il y en avait trois, il y avait un début, il y avait une fin, tu savais où est-ce que tu t'en allais, puis tu pouvais apprécier l'histoire, puis t'avais une espèce de conclusion à la fin qui te faisait sentir « OK, c'est beau, c'est réglé ». Là, c'est juste un enchaînement de contenu les uns après les autres qui mènent, on sait pas trop où, est-ce que ça va se finir un moment donné, quand est-ce que ça va se finir, on sait pas, oui. Puis un moment donné, c'est comme, il y en a peut-être qui le voient comme un fixe, là, puis genre, yes, il me faut mon Star Wars du jour, puis tant qu'il va en avoir, je vais être content, mais un moment donné, c'est comme, ok, mais j'aimerais ça que ça se finisse, puis qu'il y ait une conclusion, puis, tu sais, on dirait que c'est comme moi avec mes articles journalistiques. Des fois, je suis pas capable de les finir. Je sais pas comment le finir. Puis je sais pas comment bien décrire une fin d'article. Puis on dirait que j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Ils savent pas trop comment le finir. Puis en même temps, je peux comprendre.
Ben, j'aimerais pas. T'sais, moi, j'ai pas d'enfant, là. Mais si un jour j'ai un enfant, puis il va falloir que j'explique, je monte Star Wars, pas trop le choix. Je commence par quoi? Tu sais, quelque chose. Donc, puis c'est quoi la ligne du temps un peu?
Ah ouais.
Tu sais, qu'est-ce que je fais avec? En tout cas, on n'est pas là. C'est pas un problème que j'ai en ce moment, mais tu sais, il y a quelque chose aussi. Si je rencontrais quelqu'un qui connaît pas Star Wars du tout, j'en ai 4, pour.
5, 6, 1, 2, 3, puis.
ouais, mais je veux dire, ça reste, c'est déjà 6 films.
Ah ouais.
T'sais? Donc, 6 films d'à peu près 2 heures chacun. Ça fait déjà 12 heures de stock, puis là, il te reste. T'sais? Et puis après ça, est-ce que tu fais bon toutes les séries télé? Est-ce que tu passes à travers les livres qui sont supposément plus officiels? Est-ce que tu sais bon,
non, c'est clair.
Donc il y a énormément de stock et t'as pas besoin de tout pour comprendre, mais on a quand même l'impression que t'sais, si t'as pas vu le petit clin d'œil à la 12e minute, tu comprendras peut-être pas le 8e épisode, la 6e saison de machin chose, quand soudainement la poubelle volante vient à sa rescousse. T'sais, il y a quelque chose de quelque chose de bizarre des fois. Enfin, écoute, faut qu'on se quitte.
Ouais.
On manque de temps malheureusement, mais rapidement, est-ce que tu recommandes Mando saison 3?
Oui, absolument. Là, puis je veux pas que les gens pensent avec toutes nos critiques que finalement on n'a pas aimé ça. Là, on a vraiment aimé ça. C'est juste, c'est ça. Ça commence à. Mais en même temps, tu sais, la saison est terminée, puis elle pourrait se terminer comme ça, puis je serais bien heureux. Mais on sait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais bref, c'est un bon divertissement, puis un peu à la Indiana Jones, comme je disais tantôt.
Effectivement, ben moi aussi je te recommande tout à fait un bon divertissement, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a peut-être un petit peu d'amour, on sait pas trop. On verra, mais
de Jack Black.
Jack Black et Lizzo, le couple inattendu de l'univers Star Wars.
Et le retour de Jar Jar Binks. Et je ne dis que ça et les gens iront voir.
Le retour de. Oh, là, tu m'intrigues. Là, je sais pas de quoi tu parles. Mais écoute, j'irai vérifier. Merci encore, Jean-Philippe, d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Ouais, ça fait plaisir. Toujours un plaisir de venir discuter de la guerre des étoiles.
Et merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Si vous voulez, comme je le disais tantôt, je l'ai mentionné, on fait des épisodes en primeur pour le Patreon. Si ça vous intéresse, le prochain, c'est le retour du Jedi pour les 40 ans du film. Vous pouvez vous abonner à 5$ par mois sur le Patreon de pieuvre.ca. Autrement, je vous invite évidemment à vous abonner à l'infolettre. Ça vous donne accès à tous les contenus du site, y compris les podcasts. Et ça tombe directement dans votre boîte de réception chaque samedi matin. Ça, je vous dis merci et à bientôt.